Parashat Ki Tavo. Bon, on va s'arrêter sur le début de cette parashat. Veraya Ki Tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Ce sera lorsque tu arriveras dans le pays qu'Hachem, ton Dieu, te donne en héritage. Tu en hériteras, tu t'installeras. Ve la carta, et tu prendras mes réchites, kol peri à Adama, et tu prendras une partie, mes réchites, des prémices de tous les fruits de la terre, de ta terre, donc, cette terre qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Vesamta batene, tu mettras ça dans le panier. Vealarta elamakom, asher ifra Hachem elokecha, et tu iras à l'endroit qu'Hachem, ton Dieu, aura choisi pour y résider, pour faire résider son nom là-bas. Tu viendras chez le Cohen, qui sera en fonction à ce moment-là, évidemment, et tu lui diras et tu raconteras Igati Ayom, l'Hashem Elokecha, qui va t'y l'arrêter, Hashem Nishba, Hashem la voter, nous, la tête là, nous. Et le Cohen, il prendra le panier et il va le balancer avec toi devant l'autel. Et ensuite, Anita ve Amarta, et tu répondras, et tu diras, hein, tout ça devant Hachem, Arami Oved Avri, toute cette paracha que nous connaissons très bien, parce que c'est la paracha sur laquelle est construite la Haggadah de Pessah. Ce soir, on va commencer par les noms, par cette chose très importante qui est cette Haggadah de. Pourquoi tout à coup, à Pessah, on se met à raconter ce qu'on raconte quand on apporte les Bikurim. Mais on va parler des Bikurim eux-mêmes. Le Midrash Rabbah, sur le début de notre paracha, il dit la chose suivante. C'est Rav Huna qui dit au nom de Rav Matna, il dit « Bishrut » Gimel Dvarim Nivra Haolam. Le monde a été créé par le mérite de trois choses. Bishrut Chala, Bishrut Maasrot, Bishrut Bikurim. Par le mérite de Chala, Maasrot, Maaser donc, et Bikurim. Trois mitzvot. Et le Midrash justifie parce que sur chacune de ces mitzvot, le mot Réchit est utilisé. Donc on dit Bereshit, on lit Bishvil Réchit, parce que pour ces choses qui s'appellent Réchit, le monde a été créé. Mais la finalité du monde, ce sont ces trois mitzvot qui justifient la création du monde. Alors, il y a une célèbre question du Al-Sher. L'Al-Sher, c'est un des Mekoubalim de l'époque du Harizal, de la grande époque de la Kabbalah à Tzfat. L'Al-Sher dit, je ne comprends pas vraiment, qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah de Bikurim de si extraordinaire? Pour qu'on puisse dire que grâce à cette mitzvah, le monde a été créé. Ça veut dire que le monde est créé à cause de cette mitzvah de Bikurim, parce qu'on va apporter des fruits, les prémices de tes fruits, tu vas les amener au Beit HaMikdash. C'est un peu compliqué. Bon, Rashi, il n'a pas amené exactement ce midrash-là. Donc, d'une certaine manière, il s'est un peu protégé de la question du Al-Sher, bien que ça, son explication à lui soit aussi. Bon, alors là, c'est plus général. On comprend un peu mieux. Mais on va, pour l'instant, se tenir à ce midrash. Le midrash dit donc que par le mérite de la mitzvah de Bikurim, il dit la même chose sur Challah et sur Maasrot, et peut-être même il faut lire le midrash en disant que c'est le mérite des trois mitzvot en question, pas simplement chacune pour elle-même, chacune à elle toute seule aurait justifié la création du monde, mais peut-être comme le texte le dit, Bisrout, Gimel Dvarim, trois choses. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que le terme mitzvah n'est pas dit ici. Trois choses, Gimel Dvarim, trois choses, trois paroles. Parce qu'il y a une parole qui dit, on pourrait le dire comme ça, parce qu'il y a une parole qui dit Reshit. Arisotechem, les prémices de vos pattes. Voilà. Et donc là, effectivement, donc ça c'est les prémices de la pâte, c'est la challah qu'on prélève. C'est le commencement. Le reshit de Maasrot, la dîme que tu donnes aux Lévi, c'est appelé reshit. Et les bikurim sont aussi appelés reshit. Oui, ils sont bikurim parce que leur essence, c'est d'être, ce sont les prémices. Donc, ils sont bien un commencement. Et ça vient de ce que le Midrash ici, il a donc lu, Bereshit bara Elohim, que le mot Bereshit, il fallait le lire Bereshit. Ce n'est pas un mot Bereshit, si vous voulez, mais c'est Bereshit. Et le Be, c'est pour. Parce que, par l'intermédiaire de, grâce à, comme on dit, Bereshit. Bon, alors ça, c'est la question du Alcher. Et pour essayer de répondre à sa question, on va faire un petit détour jusqu'à ce qu'on arrive à essayer de répondre à la question du Alcher. Alors, la première question, le premier détour qu'il faut faire, c'est d'abord de regarder d'un peu plus près qu'est-ce que c'est que cette histoire de Réchit. Le mot Réchit, il est construit sur Roche. Réch Alef Shin, c'est la tête. Alors, il faut remarquer que de la même manière que notre Midrash parle de Réchit et il utilise Réchit pour, comme on a vu, pour Challah, pour Maasrot et pour Bikurim. On utilise aussi Réchit pour dire Bishvil Israël chez Nikraïm Réchit. Israël aussi est appelé Réchit. La Challah, les Bikurim, les Maasrot sont appelés Réchit, mais Israël aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk dans le Navi. Alors, les psukim qu'on a amenés pour les trois mitzvot en question, c'est les psukim de la Torah. Pour Israël, on n'a pas de passouk de la Torah qui disent que Israël est Réchit. On a un passouk dans le Tanakh, dans le Navi Yirmiya, qui dit sur le Klal Israël, Kodesh Israël Hashem, Réchit Tvoata. Il est les prémices, le commencement de sa récolte de céréales, en quelque sorte. Le Maharal explique pourquoi est-ce que, en quoi est-ce qu'Israël est appelé Réchit? On ne peut pas dire qu'Israël, c'est le premier peuple qui a été créé. Israël, c'est le nom de Yaakov Avinu. Et entre la création et Yaakov Avinu, il y a pas mal de monde. Pas mal de choses qui ont été créées, détruites, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'Israël est concrètement le premier peuple créé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Réchit? On a parlé de le commencement de la pâte, quand tu fais de la pâte, le commencement des dîmes, des prélèvements que tu vas faire sur ta récolte, les prémices, les premiers fruits. Là, on comprend le réchit, clairement, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël est réchit? Alors, je vous ai dit, le Maharal dit, parce que les Bnei Israël, Israël est réchit à Marshava. C'est réchit dans la pensée. Et le Maharal s'appuie sur le verset. Le verset, il dit qu'Israël est réchit tvouata, la tvoua. En fait, quand quelqu'un sème, quand il sème du blé, les grains qu'il est en train de semer, il n'est pas en train de les semer pour la paille que ça va produire. C'est vrai que ça va pousser, il va y avoir de la paille. Mais c'est pas pour la paille, c'est bien pour les grains de blé qui, c'est pour ça qu'il sème ses grains, pour avoir des grains, pour en avoir plus, ouais. C'est pas pour ça. Et donc, par conséquent, on a cette idée que la marshava, la pensée d'Israël, elle est là avant toute chose dans le monde. Ça veut dire, on va lire, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire Bishvil Israël, Elohim a créé le monde. Il a créé Shamaim Vaaretz. C'est-à-dire, sur le modèle de la de des semailles, on va semer, on ne sème pas pour la paille. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il l'a créé Bishvil Israël dit Maharal. Il l'a créé, et comme la création est un processus continu, Akadosh Baruch Hu n'arrête pas de créer le monde, bien sûr. Donc, il crée toujours à cause d'Israël. Donc, le monde dure aussi. À ce moment, il a été créé, mais il dure aussi à cause d'Israël. Alors, évidemment qu'on va mettre en face de ce réchit qui parle d'Israël, bon, qui. Comme dit le Passouk, Kodesh Israël est donc Réchit Tvouata. Il y a aussi un Réchit qui est dit sur Amalek. D'accord? De Réchit, d'Amalek, il est aussi dit qu'Amalek est Réchit Goïm. Amalek est le commencement, il est la tête des Goïm, des peuples. Là non plus, Amalek n'est pas le premier des peuples. Amalek, c'est un petit-fils d'Ésaü. Ça se trouve, donc, il est encore un peu plus lointain par rapport à la création qu'Israël. Et un fils d'Éliphaz. Donc, il est un petit-fils, il est deux générations après la génération de Yaakov Israël. Donc, chronologiquement, il est loin d'être premier parmi les peuples. Donc, il faut aussi comprendre en quoi est-ce qu'Amalek est un réchit. Rav Tzedakah Cohen, c'est un grand maître chassidique du 19e, il écrit pourquoi est-ce qu'Israël est appelé réchit Tvouata, qui est donc le verset du Navi Yirmiya, parce qu'ils sont tachlit, ils sont le but. Tachlit, mechuvan babria. C'est le but qui est recherché dans l'opération de création. Et un tachlit, un but, est appelé reshit. Pourquoi? Pourquoi ça? Le but, c'est au contraire, c'est le début, c'est tout. C'est à la fin. Pourquoi tu appelles ça le reshit? Parce qu'il y a le fameux principe qui dit sauf maaseh b'marshava trila. Au niveau de la marshava, au niveau de la pensée, ce qui va être tout à la fin, c'était déjà au début. C'est-à-dire que quand vous fabriquez, si vous décidez de fabriquer une table, donc ça veut dire dans votre tête, la table telle qu'elle sera quand elle sera fabriquée, elle était dans votre tête en premier. Vous n'avez pas pensé d'abord, tiens, j'ai des petits bouts de bois, qu'est-ce que je pourrais en faire, etc. Bon. Vous avez l'intention de construire une table, et à ce moment-là, donc, la première chose à laquelle on pense, donc, au niveau de la pensée, c'est le tachlit, qu'est-ce que je veux obtenir. C'est ça qui est à l'œuvre dans toute la démarche de construction. Donc, c'est ceci que dit le Absoluta Cohen, Israël sont réchit parce qu'ils sont le tachlit de la création. Donc, je répète, le Maharal dit que Israël c'est réchit à Marshava, et par conséquent, quand on lit le verset Bereshit Bara Elohim, on veut dire que le Réchit ici, c'est la racine, le fondement de toutes les actions divines en tant que créateur. C'est pour produire Israël. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel de la raison fondamentale de la création. Alors, plus précisément, la création, elle a un but. Hachem avait, si on peut parler comme ça, un but. Et ce but est atteint lorsqu'on crée Israël, parce que c'est Israël qui va arriver au but. Il va faire en sorte que le but soit atteint. Concrètement. Et à l'inverse, de façon complètement opposée, les Umot Haolam, les peuples du monde, ils sont là, eux aussi, comme un réchit. Ils ont aussi un réchit, c'est Amalek. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire que Amalek, c'est quoi? C'est ce pourquoi le monde a été créé? Non. C'est que c'est une réalité fondamentale, les Umot Haolam, mais qui vient après la réalité essentielle. La réalité essentielle, le Icar, c'est Israël, et le Tafel, le secondaire, si on peut parler comme ça, c'est Umot Haolam. Mais les Umot Haolam sont fondamentaux, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister, au contraire. Et donc, puisque Réchit, ça fait référence à Roche, alors Israël est considéré comme la terre, si on veut, et les Umot Haolam, c'est le reste du corps, l'ensemble des membres du corps. Alors maintenant, Chazal dit donc Ein Reshit Ela Bikurim. Il y a un pasouk dans le Sefer Shemot qui dit Reshit Bikurei Admatra. Les premiers nés, en quelque sorte, de ta terre. Ça veut dire que les bikurim, ces prémices, indique que la création, elle a lieu selon un principe de Reshit. Il y a un Reshit et il y a un Harit. Il y a un commencement, il y a une fin. C'est-à-dire, il y a un essentiel et il y a un secondaire. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux ça, on va s'appuyer sur un sfatemet. Le sfatemet dit effectivement, Akadosh Baruch Hu a créé un monde pour avoir dans ce monde un réchit et quelque chose qu'on appelle chélek, une part dans le monde. Quelque chose qui est la part d'Hachem. Bien entendu, Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde de telle sorte que toutes les créatures du monde reconnaissent qu'Hachem en est le maître. Bon, ça veut dire il créer le monde de telle sorte que on puisse pas ne pas comprendre, ne pas voir, ne pas être face à une évidence que Hachem est le maître du monde. Il pouvait faire une chose comme celle-là, bien entendu. Tout le monde aurait reconnu que Hachem est le roi, il est le maître. Mais Alors, je me vois décider que ça se passerait autrement. Hachem a mis dans le monde un principe de témoignage, une édoute dans le monde. Il faut qu'il y ait dans le monde un témoignage de ce que lui, ou que Oïd Barak, Hachem, a créé le monde. Et c'est ce témoignage-là qui fait tenir le monde. En d'autres termes, il a choisi plutôt la notion de témoignage plutôt que le témoin plutôt que le tous, que tout le monde. Par conséquent, les choses vont dépendre de ceux qui sont en charge de témoigner. Parce que quelque part, ce qui fait fonctionner le monde, l'intériorité du monde, c'est ce témoignage des Bnei Israël. Que dit ici, qui t'avo, c'est-à-dire, l'essentiel, le icar, l'essentiel de ce que, en fait, vous allez vous réjouir, vous allez entrer en Eretz Israël, vous arrivez à quelque chose d'extrêmement réjouissant, ce qu'on a espéré depuis la sortie d'Égypte, en quelque sorte, voilà, c'est en train de se réaliser. Alors, l'essentiel de votre joie doit venir, en fait, de ce que vous allez pouvoir apporter les bikourim. Et apportant les bikourim, vous allez montrer, vous allez témoigner de la royauté d'Hachem, de ce qu'il est le maître. C'est Hachem lui-même qui donne cette qui vous dit comment vous allez témoigner pour bien montrer que dans le monde c'est un principe toujours de réchit, il y a un commencement et puis il y a une suite. Montrer que le commencement c'est Hachem et c'est de ça qu'il faut témoigner. Donc on a dit, Israël, c'est le tachlit, c'est le but, c'est le réchit de la bria, de la création, parce que ce sont eux qui vont mettre en œuvre, en quelque sorte, le pourquoi de la création. Parce que finalement, pourquoi est-ce que, si on peut parler comme ça, on ne peut pas faire de la psychologie divine, mais pourquoi, qu'est-ce que nous on comprend du pourquoi de la création? Qu'est-ce que ça apporte à Hachem, la création? Alors, ça ne lui apporte rien du tout, ça, rien n'a changé pour Hachem lui-même. Mais il a mis en marche un processus de reconnaissance. En fait. Il veut être reconnu. Alors, on peut le dire autrement, le dire un peu dans l'esprit de ce qu'on va essayer de faire à Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Justement, Rosh Hashanah, c'est le commencement de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait dans le Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On ne se réjouit pas avec l'année, mais on se réjouit de ce début. Il y a un début, il y a un commencement. Le commencement de quoi? Le commencement de ce pourquoi le monde a été créé. Et le monde a été créé pour qu'Hachem soit Melech. Vous vous souvenez, on a déjà très souvent parlé de la différence dans la royauté, différence entre Melech et Moshel. Je répète juste pour mémoire que Melech, c'est un roi qui est accepté par ses sujets. Et Moshel, c'est un autocrate, c'est un dictateur. Et nous, ce que nous disons dans toutes nos brachot, etc., sans arrêt, nous disons que nous reconnaissons Hachem comme Melech. Et ceux qui ne le reconnaissent pas comme Melech, c'est pas qu'ils ne le reconnaissent pas, ils, simplement, pour eux, il est Moshel. Et donc, le début de l'année, en quelque sorte, le réchit de l'année, c'est le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle occasion, d'une nouvelle opportunité de recevoir Hachem comme roi. Et Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour couronner, pour marquer le couronnement? Eh bien, on sonne du chauffard. On dit que le Gaon de Vilna, contrairement à ce que beaucoup d'autres gens pensent et font, le Gaon était extrêmement joyeux quand on sonnait du chauffard. Pourquoi? Il est en train d'exprimer le vive le roi, et on sonne pour manifester la royauté, quoi. Manifester et faire du bruit que c'est le couronnement. On pourrait tirer des coups de canon, on pourrait faire beaucoup de bruit. C'est ça. Au moment de, il y a quelque chose, une expression. Alors, bien sûr, on va la raffiner parce que pourquoi ça va se faire avec le chauffard, etc. Tout ça, on en parlera le cas échéant. On en a déjà parlé les autres années. Mais en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit du jour du couronnement d'Hachem comme roi. Et c'est Israël qui est en charge de couronner Hachem. L'idée, c'est arriver à persuader le monde entier de couronner Hachem comme roi. Alors maintenant, parce qu'il est roi, donc ça veut dire que si je l'accepte comme roi, j'accepte que ce soit lui qui me juge, en fait. Et en fait, le jugement, il est effectivement un jugement d'Ebné Israël, mais c'est un jugement du monde entier. Parce que le Moshel aussi, il peut juger. Il juge aussi. Enfin, le Moshel juge. il y a un jugement du monde et un jugement d'Israël. Donc, je reviens, disons là, ici. Né Israël, comme Rav Tzedakah Cohen l'a dit, ils sont le tachlit, ils sont le but, parce que le but est atteint par eux. Et c'est à partir d'eux que doit se propager cette reconnaissance d'Hachem comme roi. Alors, bien sûr, encore une fois, Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu créer un monde qui fonctionne d'une autre manière, de telle sorte qu'il soit évident pour tout le monde qu'Hachem est le maître. Il n'y aurait pas de astara, il n'y aurait pas de. Rien ne serait caché. Mais, alors, finalement, pourquoi Hachem a choisi ce mode-là plutôt que le mode de la reconnaissance? Pourquoi il n'a pas fait tout de suite qu'on le reconnaisse? C'était un terminus. Alors, premièrement, on pourrait dire un peu simplement que si c'était évident pour tout le monde, il n'y aurait donc aucun travail à faire de reconnaissance, donc il n'y aurait plus de différence entre Melech et Moshel, puisque tout le monde le reconnaîtrait comme Melech, si on ne peut pas faire autrement que de le reconnaître comme roi. Et donc par ce système-là, où tout le monde ne le reconnaît pas, mais il est fondamental qu'il soit reconnu, c'est-à-dire il faut mettre en place cette espèce de minorité, de ce groupe de gens qui vont reconnaître effectivement Hachem. Pour les mettre en place. Alors on les met en place, et ça c'est Israël. Alors, il a fait en sorte que la gloire divine ne soit pas perceptible par tout le monde, c'est-à-dire ne s'impose pas à tout le monde pour donner la place à une notion de service, de travail, d'avoda. On appelle avodat Hashem, c'est la avoda pour Hashem, pour le reconnaître. Donc j'ai un travail pour que moi j'arrive à le reconnaître, puis ensuite j'ai un travail pour le faire reconnaître. Et s'il y a un travail à faire, alors ça va faire la différence entre ceux qui font le travail et ceux qui ne le font pas. Et on entre dans ce principe de Schar Veonesh, c'est-à-dire le problème de la récompense. Le problème de la notion même de récompense dans le fait de reconnaître Hachem, pourquoi il faut qu'il y ait une récompense, finalement, c'est... Puisque quelqu'un a dû faire un travail, comme on dit, tout travail mérite salaire, eh bien, il y a un salaire. Et c'est une façon pour Hachem de faire en sorte que le genre humain, si on peut parler comme ça, que le genre humain dont Hachem attend qu'il le reconnaisse comme roi, quand ce genre humain-là, Hachem va lui donner un salaire, parce que c'est une démarche de chesed. Donc, parce que ultimement, finalement, pourquoi est-ce qu'Hachem veut être reconnu comme roi? Puisqu'en fait, vu du point de vue d'Hachem, si on peut parler comme ça, ça n'a aucune importance. On ne peut pas dire, si vous voulez, qu'Hachem pour lui-même, il a besoin de cette reconnaissance, parce que sinon il ne serait plus Hachem. Il a besoin de... Alors, il y a une fragilisation de la part d'Hachem. Quand Hachem accepte de créer le monde, donc c'est déjà une façon pour lui de se fragiliser, puisque quelque part, il se rend dépendant, si on peut parler comme ça, de l'acceptation par les humains, de son acceptation comme roi. Alors, on est obligé de bien comprendre, il faut regarder les choses de deux manières. Ça, vu du point du Hachem, il ne s'est rien passé avec la création, mais s'il ne s'est vraiment rien passé, alors ça n'a aucun sens de faire des mitzvot, etc., puisqu'il ne s'est rien passé. Et, mais vu de notre côté, c'est-à-dire, c'est comme si, si vous voulez, c'est comme si vous êtes, comment est-ce que c'est difficile à dire, mais c'est comme peut-être un parent par rapport à son enfant, c'est-à-dire que le parent, pour être pour lui-même, il n'a pas besoin que l'enfant lui donne quoi que ce soit. Si les parents deviennent dépendants de la reconnaissance par leurs enfants, ça devient grave. Mais ça arrive souvent. D'accord ? Les enfants et les parents ne sont pas assez indépendants. Et donc, ils ont besoin de la reconnaissance de leurs enfants. Mais en réalité, le parent, normalement, il n'a besoin de rien. Mais à partir du moment où il a des enfants, alors, quelque part, une partie de sa personnalité, si vous voulez, se met dans cette posture d'attendre quelque chose de l'enfant, une réponse. Mais c'est comme si on pouvait dissocier le parent quand il est pour lui-même, et puis le parent dans son rôle de parent. Dans son rôle de parent, effectivement, il y a une espèce de dialogue, enfin des échanges avec les enfants, etc. Et là, d'une certaine manière, on veut justement qu'il y ait cet échange. Un échange qui est en fait, qui, s'il est bien compris, est un échange qui est pour l'enfant. Donc, par le côté échange, c'est-à-dire où l'enfant donne quelque chose à son parent, que ce soit sous forme de kavod, toutes les formes de kavod, y compris d'amour, etc. Tout ça, c'est pour que, comme j'ai souvent expliqué, c'est pour que les parents jouent bien leur rôle de parent. Donc, ultimement, c'est pour l'enfant. Mais ça passe par Hachem, c'est la même chose aussi. Quelque part, quand Hachem demande faites-moi ça, apporte mon corban, donne-moi mon pain, etc., Hachem a besoin de tout ça, c'est pour nous, évidemment. Mais pour que ça soit vraiment pour nous, il faut que ça apparaisse justement différemment, que ça apparaisse comme si on donnait à Hachem quelque chose. Mais il ne faut pas se tromper, on ne donne rien. Mais c'est justement une façon pour lui de donner de la meilleure façon qui soit, avec le principe de que ce soit pas un pain de kisoufal, pas le pain de la honte, c'est-à-dire de donner sous forme de salaire. Donc, c'est un chesed complet, parce que le don est donné sous forme de salaire, c'est-à-dire, comme vous savez bien, que quand on donne à quelqu'un, c'est ça tout le problème du don, la réception, la capacité de recevoir, etc. Quand on donne, certaines fois, c'est difficile de recevoir. Vous savez bien que c'est un peu difficile de recevoir. Même des fois, on ne sait pas très bien sur quel pied danser, quoi. Même quand c'est quelqu'un qui... Vous avez invité quelqu'un, il amène un cadeau. Alors, vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire, quoi. Alors, il faut savoir comment le recevoir. Ça veut dire, d'un autre côté, il y a une volonté d'autonomie chez l'être humain qui est que je veux être indépendant, je ne veux rien recevoir de personne. Donc ça a toutes sortes de conséquences. Mais la société est telle qu'il y a des échanges nécessaires. Pour faire société, il faut qu'il y ait des échanges. Et donc, il faut savoir recevoir. Je crois que c'est plus difficile de... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est en général plus difficile de savoir recevoir plutôt que de savoir donner. Donner, c'est peut-être un peu plus facile, à condition de bien faire attention de ne pas donner en écrasant celui auquel on donne. Surtout, ça, c'est des problèmes dans la tzedaka. Quand vous donnez à un pauvre de quoi manger, mais vous lui avez donné de quoi manger, mais vous l'avez tué en lui donnant. Parce que vous l'avez écrasé en lui donnant, donc il va mourir à côté du morceau de pain que vous lui avez donné, quoi. Ça aussi, c'est difficile, justement, de donner sans écraser. Et pour donner de la meilleure façon qui soit, c'est de donner de telle sorte que celui qui reçoit, il le reçoit comme un salaire. C'est pas qu'on me donne, je me suis donné à moi-même par mon travail. J'ai fait un travail qui fait que je mérite ce salaire. Je le vaux bien, mais pas de L'Oréal. Je le veux bien. Je le vaux bien parce que j'ai fait le travail qu'il fallait. Donc ce principe-là, il se dévoile par la mitzvah de Bikurim. La mitzvah de Bikurim, elle va montrer que tous les détails, chaque fruit, chaque commencement, donc, viennent du shoresh, ils viennent de la racine. Donc maintenant, on peut apporter un élément de réponse à la question du Halcher. En quoi cette mitzvah-là, par exemple de Bikurim, en quoi cette mitzvah-là vaut-elle, justifie-t-elle la création du monde? C'est justement que la mitzvah de Bikurim n'est pas une mitzvah particulière, un certain geste bien particulier. Mais c'est quelque chose qui montre un principe fondamental, qui est le principe de la création du monde par Hachem. C'est-à-dire montrer que tout ce qui a été créé dans le monde a été créé ultimement pour Hachem. Comme Hachem dit, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour moi. Kol hanikra bishmi v'lichvodi b'rativ. Donc la mitzvah de Bikurim et les autres mitzvot qui s'appellent le Reshit aussi, elles montrent quel est le principe de la création qui est à l'œuvre dans la création du monde. Le principe, c'est la création du monde est là pour dévoiler la gloire divine, c'est-à-dire pour qu'on reconnaisse Hachem comme roi. C'est pour ça que le monde a été créé. Et cette mitzvah, elle vient montrer ça. Ces mitzvot-là, elles viennent montrer ça. La parasha de Bikurim, donc qui est au tout début de parasha de Kitavo, il faut toujours regarder ce qu'il y a juste avant. Ce qu'il y a juste avant, c'est Amalek. La dernière chose qu'on a lue dans Kitetsé, c'est Amalek. La mitzvah de détruire Amalek. Et pourquoi est-ce que ces deux mitzvot sont juxtaposées? Parce qu'elles sont Zé le Umadze. Elles sont l'une l'inverse de l'autre. Vous savez, Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel tout ce qu'il y a dans le monde de la Kdusha existe de la même manière, avec la même amplitude dans le monde de la Touma. Il y a un degré 50 dans la Kdusha, alors il doit y avoir un degré 50, enfin disons, un degré 49 dans la Kdusha, il y a aussi un degré 49 dans la Touma. Parce que si vous voulez, si ce n'était pas équilibré, eh bien on n'aurait pas vraiment le choix. Donc on serait obligé, si c'est du côté de la Kdusha, on serait obligé de reconnaître Hachem. Donc on ne serait pas libre. Donc on ne pourrait pas dire que l'homme, qu'on a la possibilité d'une Bechira. Donc il faut que ça soit, que ça apparaisse en tout cas, même si ce n'est pas la réalité, mais que ça apparaisse comme étant complètement équilibré. Donc d'un côté, pour expliquer ce zé, le umatzé, d'un côté on a la mitzvah de Bikurim, qui est, comme on a dit, le giloui, le dévoilement de ce principe de réchit, le vrai réchit, le vrai, le réchit amiti, qui est le, c'est quoi ça veut dire? L'idée de base que le but de la création, c'est de dévoiler la gloire divine, dévoiler Kachem et Melech. Alors, de l'autre côté, on a Amalek, qui est appelé Réchit Goïm. Mais après, c'est marqué Réchit Goïm Amalek va Rito Adéofet. C'est-à-dire, Amalek, non seulement il va pas du côté du vrai Réchit, mais il invente un faux Réchit. Un nouveau but dans le monde. Il voudrait entraîner le monde dans cette direction. Et donc, il s'attaque à ceux qui représentent l'autre direction, la vraie direction. Et lui, il veut entraîner tout le monde dans l'autre direction. Alors, c'est Achrito Adéovet. Ça veut dire, quand le vrai Réchit se dévoilera de façon claire dans le monde, alors Amalek sera complètement, disparaîtra complètement. Alors, c'est marqué dans la suite de. C'est un sifri, en fait, c'est pas le midrash, mais c'est aussi un midrash halakha. J'aime pas cette façon. Mais... Il dit que il lit donc dans le pasuk qui dit Velakarta, Mereshit Kolpri Adama, tu prendras une partie des prémices, donc. Etc. Alors, le Sifri, donc un Midrash Halakha, il dit sur ce verset, Asse mitzvah ha'amura ba'inyan, c'est-à-dire, fais cette mitzvah de Bikurim, shebishara tikanes la'aretz. Parce que, par le mérite, le salaire, en fait, de cette mitzvah-là, tu vas entrer en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on va entrer en Eretz Israël précisément à cause de cette mitzvah? Il y a 613 mitzvot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a celle-là de particulier de nouveau? Et d'après ce qu'on a vu, on peut répondre que Eretz Israël, c'est le lieu justement où le Réchit va pouvoir se manifester.
Mais justement, ce sujet-là, il est vraiment renforcé par la mitzvah de Bikurim, d'après ce qu'on a vu. Et à cause de ce, enfin, grâce à ce renforcement, alors tu mérites d'entrer en Eretz Israël. Puisque entrer en Eretz Israël, ça va permettre de renforcer cette reconnaissance de la malchoute de la royauté divine, alors ça c'est une bonne raison pour que tu entres en Eretz Israël. Le Maharal dit sur sur le Midrash qui dit donc Bereshit bara Elokim bishvil bikurim shenikraou Reshit, c'est une autre forme du Midrash dont on a parlé. Et le Maharal dit klal hadavar hazeh, le fondement donc de ce qui le monde a été créé pour quelque chose, grâce à quelque chose qui est un Réchit. Atrala, un commencement. Il y a un commencement. C'est-à-dire, il y a un point de début, en fait. Comme par exemple la Torah, dit Mara. La Torah aussi, c'est un début. Et de ce début, la suite provient en quelque sorte. Alors, pour Bishvil Adavar Sheutachlit Bishlemut Abriya, cette chose qui est le but et la perfection de la création, ce par quoi tout va être rendu parfait, et c'est ça vers cela qu'on va. C'est ça l'idée en quelque sorte. C'est Bishvil Bikurim, c'est-à-dire le monde a été créé pour ça. Donc Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec ce fameux principe de Réchit, bara Elokim. Alors la Gemara elle dit cette histoire de dans Réchit, il y a ce roche, la notion de tête. La tête, le cerveau, etc. Là-bas, l'Agmara dit, Goufa batal recha azil. Le corps suit la tête. C'est-à-dire, tous les détails suivent ce qui était à la tête, c'est-à-dire tout provient du début. Et donc, ils sont tous les détails vont dans le sens indiqué par le
Réchit.
Ça, c'est justement le contenu de cette fameuse mitzvah de Bikurim, de dévoiler dans le monde que le monde n'a pas été créé comme une entité terminée en quelque sorte, mais comme quelque chose qui, comme quelque chose de dynamique en quelque sorte, quelque chose qui est toujours en train de produire quelque chose et de continuer le travail qui a été fait dans la Réchite. C'est pour ça qu'Israël s'appelle Réchit Tvouato, comme dans la Trouma, comme dans la Tvoua, pardon, dans la récolte, dans les céréales. Il s'agit de bien comprendre que tous les détails, que tout dans le monde, en quelque sorte, toutes les forces, toutes les actions dans le monde, elles doivent servir à ce qui est indiqué dans le Réchit, c'est-à-dire un fameux dévoilement de la malchoute d'Hachem. C'est un passage dans le Navi qui dit Amzu Yatsarti, ce peuple, je l'ai formé, je l'ai créé. Teilati Yisapehu. Ils vont raconter ma louange. C'est ça. La louange d'Hachem, c'est de dire qu'Hachem est roi. Et donc, par le mérite de ce renforcement permanent du Réchit, alors on va pouvoir effacer Amalek, justement. On va faire en sorte que l'autre direction n'existe plus. Donc ça, c'est un premier point sur le rôle de cette mitzvah de Bikurim. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette mitzvah de Bikurim, comme je vous l'ai lu un peu. Donc, tu vas amener les prémices au Beth Amikdash et tu vas faire une déclaration. Vanita ve'amarta, et tu vas dire, Arami ovedavi, c'est-à-dire, l'araméen a voulu détruire mon père. Donc, c'est Lavan qui a voulu détruire Yaakov, etc. Mais en fait, bon, après, ensuite, on raconte toute l'histoire. Et dans cette paracha, on dit une drôle de chose. Le pasouk dit, tu vas ramener ces bikurim, le samta batene, tu les mettras dans le panier, et tu iras à l'endroit qu'Hachem a choisi pour y résider, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Le Baal HaTurim, donc, il fait remarquer la chose suivante. Un spécialiste de ces remarques fait remarquer que le mot tené, qui est le mot qui désigne donc ce fameux panier, il s'écrit tête, nun, aleph. Et donc la valeur numérique de tené, tête c'est 9, nun c'est 50 et aleph c'est 1, donc c'est 60. La lettre dans l'alphabet qui correspond à 60, c'est le Samer. Samer, c'est un cercle. Alors, le Baal HaTurim fait remarquer Remez le Bikurim Echad Mishishim ou le Kach Ne'elam Samer le Parashat Bikurim. Dans toute la paracha de Bikurim, il n'y a pas la lettre Samer. Il y a toutes les lettres de l'alphabet, mais il n'y a pas la lettre Samer. Maintenant, la Torah, elle a dit qu'il faut apporter les prémices. Mais dans la Torah, il y a toujours une nécessité, quand on veut formuler la halakha, de quantifier les choses. Il faut qu'on dise combien on doit amener. Tu vas amener les prémices. C'est quoi les prémices? C'est quoi? C'est un millième de ma récolte? Ou c'est 80% de ma récolte? C'est combien qu'est-ce que c'est les prémices? C'est le premier fruit, c'est-à-dire un millième de, un dix millième ou un millionième de ma récolte? Alors, la halakha, elle est que ce qu'on amène, c'est Echad Mishishim, un soixantième. C'est ça. On amène un soixantième au Beth Amikdash de la récolte. Donc, un soixantième, c'est le 1 et 60. 60, c'est sa mère. Évidemment, on ne comprend rien à ce qu'a dit ce qu'il dit ici, le Baal HaTurim, qu'est-ce que ça a à voir? C'est-à-dire, parce que la lettre, je dirais presque le contraire, parce que la lettre qui veut dire 60 ne figure pas dans la parasha de Bikurim, alors c'est une façon de nous dire, de façon allusive, que ce qu'on doit amener, c'est un 60e. Je dirais le contraire, non? Il ne faut sûrement pas amener un 60e parce que c'est la seule lettre qui n'y est pas. Non. La lettre. Il faut qu'on comprenne en quoi l'absence de la lettre Samer est un remez. C'est une allusion au fait que le chiour, la mesure de Bikurim, c'est un 60e. Bon, alors, on parle de quelque chose d'absent, donc on parle de choses cachées. Alors, c'est tout de suite, il faut tout de suite penser le mot olam, qui veut dire le monde. D'accord? Il est de la même racine que ne'elam, elem, c'est-à-dire caché, le caché. Ce qui veut dire en général, on le lit comme ça, que le monde cache Hachem. Le monde, il a l'air de fonctionner sans l'intervention d'Hachem. Mais ça veut dire qu'Hachem s'est caché en créant le monde. Pourquoi ? Parce qu'il s'est caché de telle sorte que notre premier, de prime abord, en fait, on a l'impression que le monde, bah, il continue, il vient, il a une cause, cette cause, elle a une cause, et la cause, elle a une cause, etc., jusqu'à l'infini. Et par conséquent, ce principe-là, de la cause, la cause de la cause, etc., et avec et ça, ça, c'est infini. Ça nie toute la notion de création. Il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de création. Donc, tout ce principe qui est notre façon de lire la Torah et de. C'est de considérer que le monde a été créé yesh me'ayin, ex nihilo, pour ceux que le latin intéresse plus que l'hébreu, yesh me'ayin aussi, ça va aussi bien, et à partir de rien du tout. Ce qui veut rien dire. Pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est bien clair que dire que le monde a été créé à partir de rien du tout, yesh, de l'ilia à partir du il n'y a rien, bon, ça n'a pas de sens. Mais si on dit qu'il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de renouvellement, puisque tout a une cause à chaque fois. Ça vient de ça, ça vient de ça, qui vient de ça, qui vient de ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui gouverne le monde. Le monde, il avance tout seul. En fait, ce que nous disons, ce que le Navi nous dit, avec ce verset que je vous ai cité avant, Amzeu, Yatsarti, Li, Tilati, Saperu, ce peuple-là, je me le suis créé, il va raconter ma louange. Cette Yetsira, cette création, formation, c'est quoi? C'est le cas d'Israël. Elle vient justement, compenser cette absence d'indication claire dans le fonctionnement du monde que le monde a été créé. C'est-à-dire, ça vient nous renforcer cette histoire qu'il y a un réchit, il y a un commencement du monde. Le monde a un commencement et il a une fin, aux deux sens du mot fin. Ça veut dire le monde a une finalité. Alors, les Chachamim, les sages, de façon générale, c'est assez connu que dans le monde, il y a deux figures géométriques, si vous voulez, essentielles. L'une, c'est le cercle. Et l'autre, c'est la droite, on dirait, ou dans notre langage, une demi-droite, quoi. Une droite, c'est-à-dire un point, et à partir de là, une droite. Le cercle, le igoul, il représente ce qui nous semble de premier abord cette idée justement de continuité, c'est-à-dire quelque chose qui a été mis en marche une fois pour toutes et qui se répète à l'infini, c'est un espèce d'éternel retour. Et donc, évidemment, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Quand j'ai vu, à la limite, un premier tour, ben, je connais exactement tout ce qui va se passer par la suite, c'est la répétition. Et d'un autre côté, il y a ce cave, ce rayon, c'est-à-dire qu'il y a un début, un point, et puis une direction qui est donnée, c'est-à-dire une droite qui part. Et ça dit ce qu'est réellement le monde. Il a été créé, puis ensuite, à partir de ce point-là, il se développe et il va vers un but bien précis. Bon, ça prendra du temps, mais il va vers un but bien précis. Ces deux formes-là, donc, on va dire le rayon et le cercle, ils sont représentés dans la graphie des lettres de l'alphabet, le cercle par la lettre Samer et le Kav par la lettre Vav. La lettre qui représente le cercle, donc le Samer, c'est-à-dire c'est une lettre donc sans commencement ni fin, pas de roche, pas de sof. Ça c'est bon, ça c'est clair. Et le Vav, qui représente cette idée du rayon en fait. En réalité, ce Vav, quand on l'écrit comme un Yud qu'on prolongerait. Donc, le Vav, il vient du Yud. Le Yud représente toujours la pensée primitive, la pensée de départ. Le Réchit, à partir duquel le Kav s'étend. Yud, on pourrait dire c'est un point. Yud, c'est un point à partir duquel le rayon va s'étendre. Rashi dit dans Sefer Shemot, Rashi dit que le Yud, ça fait référence à la pensée. Donc, c'est aussi pour ça que le Vav, c'est un Vav à Chibour. Enfin, il joue le rôle aussi du Vav à Chibour. qu'il est aussi un le vav qui relie. C'est le E-T, oui. Le vav. C'est-à-dire, c'est lui qui fait qu'il y a une, il y a un lien dans cette, ce que je veux dire, dans cette extension, en quelque sorte, du cave. Donc, d'une certaine manière, le Samech, il représente l'hérésie, si vous voulez, de l'éternel retour. À savoir que le monde n'a pas de créateur. Donc, le monde est éternel. Et que, bon, il se déroule des phénomènes complètement fixes qui étaient tous là depuis toujours, en fait. Donc, c'est l'Et Din Velet Dayan, ça veut dire. Il n'y a pas de créateur, donc on n'a pas de compte à rendre. On est responsable devant personne. Et donc, par contre, la lettre Vav, elle dit qu'il y a un commencement. Et il y a une fin, c'est-à-dire, on va vers un certain but. Il y a un créateur. Ce créateur crée en permanence, c'est-à-dire qu'il dirige en permanence le monde. Alors, on peut essayer de voir ce que ça nous dit sur la mitzvah de Bikurim en particulier. Donc, on a vu, la mitzvah de Bikurim, elle a à voir avec la notion de Réchit. Donc, Réchit, Bikurim, Admatra, etc. Donc, le Bikurim montre que le monde est un monde qui se renouvelle en permanence. C'est-à-dire, il y a un point de départ et le monde va vers un but bien précis. C'est-à-dire, Kav. C'est la droite, en fait, le rayon. Et donc, nous avons reçu la mitzvah d'amener les fruits, qui sont les premiers fruits. Il faut les amener au Beth Amikdash. C'est-à-dire à l'endroit où Beth Amikdash représente la résidence d'Hachem. C'est l'endroit qui est le réchit, en fait. On amène ce qui est réchit des fruits à l'endroit qui est le réchit du monde. Donc, on vient témoigner que Hachem est la source, la racine, si vous voulez, le commencement de tout, de tous les flux. Et donc, la mitzvah d'approcher les Bikurim, de les amener à Hachem, c'est en quelque sorte une opération par laquelle ce flux dont j'ai bénéficié, le flux qui est arrivé jusqu'à moi, d'accord, qui est sous forme des fruits, je les ramène à la source. D'une certaine manière, c'est comme si je ramenais le acharit à au réchit. Et donc, ça veut dire que je prends cette opération de Bikurim, elle montre cette idée de renouvellement permanent. Et donc, si j'essaie de voir ce qu'a dit le Balaturim, en fait. Donc, son histoire du Téné, c'est la lettre Samer, etc., qui n'est pas là, etc. On peut comprendre pourquoi est-ce que la lettre Samer n'est pas dans la parasha de Bikurim. Pourquoi est-elle complètement absente de la parasha de Bikurim? D'après ce qu'on a expliqué, puisque le Samer représente cette idée d'un monde non créé, sans commencement, sans but, etc., on comprend bien que c'est exactement le contraire de Bikurim. Les Bikurim viennent dire quelque chose et la lettre Samer, elle dit le contraire. On comprend qu'elle n'est pas sa place dans la parasha de Bikurim. Mais néanmoins, le Balaturim dit, mais ok, la lettre n'y est pas, mais quelque part elle est là sous forme de remèze, sous forme allusive, par le biais de la gematria. D'accord? Il y a quelque chose de fondamental qui joue un grand rôle dans la parasha de Bikurim, c'est ce fameux panier dans lequel on amène les fruits. Et ce panier-là, eh bien, il fait référence au Samer. Il a la même gématria, la même valeur numérique. Donc, c'est une façon d'écrire autrement Samer. C'est-à-dire, l'idée du Samer, peut-être la partie positive, récupérable qu'il y a dans le Samer, et qui n'est pas dans la forme du Samer. C'est quoi? C'est que le panier, c'est quoi? Ben, le panier, c'est ce qui permet au flux des bontés d'Hachem de... Je peux pas les tenir. Si j'ai pas de panier, ben le flux d'Hachem, il va se perdre. Parce que je peux pas recueillir ce flux. Il faut bien un contenant. Et ce contenant, c'est ce panier qui a la valeur numérique de 60. C'est-à-dire qui représente cette lettre Samer. Mais quand est-ce que le flux doit être soutenu en quelque sorte par un panier? C'est quand justement ces fruits sont coupés de leurs racines. Quand le flux en question il est coupé de son shoresh, alors il faut artificiellement le tenir. Tant que les fruits sont attachés à l'arbre, on n'a pas besoin d'un panier. Donc, quand les choses apparaissent comme elles ont l'air de tenir toutes seules, en fait, sans commencement, coupées du commencement de la source, c'est-à-dire quand les choses sont sous forme de samer, sous forme de choses qui a l'air de tenir toutes seules. Maintenant, vient la mitzvah de Bikurim qui dit que il va falloir prélever une partie de ce qui est dans le panier en question pour reconnecter le achrit au reshit. C'est-à-dire, je prends le acharit, c'est-à-dire les fruits, et puis je les ramène à la source, je les ramène au reshit, c'est-à-dire devant Hachem. La source ultime, c'est Hachem. Ben, je ramène ce acharit au début. Et dans les bikurim, on prend quelle quantité? Un echad misamer, c'est-à-dire une partie de 60. C'est-à-dire, on prend une partie de ce qui a l'air d'être une continuité. Ce qui est représenté par le Samer en question. Et on prend une partie, on prend le 1 en quelque sorte, le Echad, 1 de 60. Le 1 qui représente évidemment la source, le Hachem. Donc il y a cette idée de qu'est-ce que je ramène vers Hachem, je ramène le 1. Je vois que dans le Samer, il y a aussi un 1. Il faut que je prélève ce 1 et que j'enlève. Que je l'amène à sa source. Le Samer, il a l'air de tourner tout seul. Donc, on va enlever le 1 de ce Samer. Donc, on comprend pourquoi le fait que le chiour, que la mesure des bikurim, ce soit un 60e, c'est la raison pour laquelle la lettre Samer, elle peut pas être dans la paracha de bikurim, puisque cette lettre, elle montre, ce prélèvement, donc cette paracha de Bikurim, elle vient publier le Réchit, la notion de Réchit. C'est exactement le contraire de ce que dit le Samer. Donc c'est ça que je voulais voir là aujourd'hui avec vous. Bon, il y aurait encore des choses à dire sur la première occurrence justement du mot Samer dans la Torah. Le mot Samer, c'est tout un sujet, mais la première occurrence de la lettre Samer dans la Torah depuis Bereshit, c'est quand Hachem a prélevé un côté ou une côte de Adam pour qu'on la construise en femme. C'est marqué qu'une fois qu'il a prélevé, et bien il se gore. Hachem a fermé dessous. Il y avait une plaie ouverte, puisqu'on lui a enlevé un côté ou une côte. Le fait qu'Hachem l'ait fermé dans Vaïsgor, vous avez la première occurrence du mot de la lettre Samer. Vaïsgor. Bon, là, il y a tout un sujet, évidemment, qui va toucher l'homme, la femme, c'est-à-dire toute la création. En fait. Donc, il y a un petit morceau là qui est dans la paracha de Bikurim, et peut-être un plus gros morceau qui était déjà dans la création de l'homme, enfin plutôt de la femme. Voilà. Donc dimanche, on reprendra le cours de ce que j'essaie de raconter sur Rosh Hashanah Yom Kippour. Sur la tchouva.
Dans quelle année que le Sasser, il parle d'Eidoud.
Pardon, je n'ai pas compris ce que tu as demandé.
Quelle année, le Sasser, il parle de sujet.
Le Sasser, c'est Tafresh, attends, je vais te dire. Voilà, parce qu'il est mon SMS.
Même test. J'ai cherché aussi dans le Nefesh HaChaim le sujet qu'on a traité dimanche. C'est dans quel
Perek? C'est Perek Vav. Premier char, Perek Vav.
Merci.
Okay, bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Voilà.
Bonsoir, merci.
Alors.
Merci, bonsoir.
Merci.